Tout de suite, c'est votre nouveau rendez-vous qui commence du côté de la régie. Marion Guilbault vérifie une dernière fois les balances avec notre invité Manu Katché. Ça s'est bien passé, Marion ?
Je disais à Manu Katché, Laurent, que j'ai jamais vu des balances aussi efficaces de ma vie. La preuve.
Où est passé Paris Marose ? Paris sur Seine l'a bouclé. Sont partis en portant la clé. Les nonchalants du long des quais. Paris Marose. Paris Marose. Où est passé Paris que j'aime ? Paris que j'aime et qui
Manu
n'est
Katché.
Plus
C'est, qui, c'est la voix de qui qu'on entend là tout de suite ?
Faut que j'aille en banlieue pour retrouver Paris. J'ai si peur que t'aies perdu ton âme et crié au gâchis. Je me méfie de la nostalgie. Je fais que me plaindre comme un vrai Paris.
Voilà, c'est un des invités de Manu Katché sur cet album The Scope. Et c'est lui qui sera en live tout de suite avec nous.
Et ça, c'était la qualité des balances.
Mais non, mais c'était juste pour dire que ça avait mis un temps incroyable. Ils sont arrivés à 13h. À 13h30, elle était presque finie la balance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Rendez-vous tout de suite, générique.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le dernier de la semaine, mais comme chaque jour, double écoute, 18h, vous pouvez nous rejoindre en avant-première sur franceinter.fr en podcast, et puis 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Session live ce soir avec Manu Katché à la batterie, deux titres extraits de son nouvel album The Scope. Sur la pochette, Manu Katché est photographié de profil, c'est son profil africain, c'est ce que j'ai pu lire, il va tout nous expliquer. À table avec nous ce soir, Safi Nebbou pour son nouveau film, Celle que vous croyez, au programme dédoublement de personnalité, faux profil Facebook pour Juliette Binoche, planqué derrière son ordinateur, c'est à la fois Psychose Vertigo et du Claude Sauté. Safi Nebbou, bonsoir.
Bonsoir.
Jeudi, c'est le jour des nouveautés nouvelles dans le NRV. Marion Guilbault nous dit tout sur les sorties des albums à venir.
Le phénomène de la pop, elle s'appelle Billie Eilish, elle a 18 ans, elle est américaine. Le renouveau du reggae jamaïcain, c'est une fille aussi. Kofi, 18 ans, passe ton bac d'abord. Et un chanteur bien vénère, Gontard, à découvrir dans très peu de temps.
Et dans le Énervé la suite ce soir, pour la deuxième heure, espérance de vie maximum. Demain, on sera tous immortels, Christophe Bourseiller.
Oui, alors nous, on passe de 18 ans à 847 ans. Donc effectivement, Laurent, vous ne les faites pas, moi non plus. Du reste, c'est notre force. Je ne sais pas comment on a fait. Et donc pour parler de ça, serons-nous tous demain immortel, mais à quel prix, sous perfusion, etc. Donc alors, il y aura Roland Portige, qui est journaliste, auteur de Les Enfants de Mathusalem, un livre passionnant, je dois dire, sur ce sujet. Il y aura également Yves Roucaute, philosophe, le mec le plus optimiste que j'ai jamais vu de ma vie. C'est formidable de lire ça, ça fait du bien. Le bel avenir de l'humanité, il trouve que c'est extraordinaire qu'on se clone les uns les autres. Enfin, il dit beaucoup plus de choses, et c'est intéressant. Anne-Marie Guillemard est sociologue et plus réservée.
Ouais, j'imagine.
Elle est co-auteur de Allongement de la vie, quel défi, quelle politique. C'est une autre proche. Et puis Julie Graziani est encore plus réservée. Elle est avocate, lanceuse d'alerte et éditorialiste à l'incorrect.
Eh bien, le NRV, c'est parti sans réserve ce soir.
Non.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on ouvre tout de suite en musique, en live avec notre invité Marion Guilbault. Nos invités, parce qu'ils sont très nombreux derrière nous.
Ah, il y a du monde avec Manu Katché, un homme de musique, un homme d'image. Manu Katché, le batteur qui ne danse pas mais qui joue avec les stars, Véronique Sanson, Peter Gabriel, Sting, Cabrel, Johnny Mitchell, tout le monde. Il leur a prêté ses pulsations, son énergie, son groove. On parle même du fameux son Katché. Manu Katché, l'homme de télévision, où il en est avec le petit écran. Ce qui est sûr, c'est qu'avec son 10e album The Scope, il étend encore son champ d'action musicale avec toujours la batterie comme colonne vertébrale. Bien sûr, mais se greffe cette fois-ci des mélodies, des voix. Comment adapte-t-il son jeu à toutes les musiques présentes dans cet album? Comment son instrument fétiche, la batterie, résiste à l'invasion des machines? C'est quoi le fameux son Katché? Eh bien, réponse dans quelques minutes après ce premier titre en live. C'est à vous.
Paris Marose. Je représente mieux Paname qu'à Nidalgo. Je parle argot et j'ai un schlass planqué sur le palto. Et c'est peut-être qu'une impression, mais c'est mon ressenti. Paname City, je te sens bizarre ces temps-ci. Où est passée celle qui abritait pas mal de fous, évaporée comme la cheminée du canal de l'Ourcq? Où est passée la 314, celle que j'ai connue? Certains diront que tu t'évapores, d'autres que t'évolues. Une chose est sûre, tu veux tout mon cash. Tu veux que je me casse ou quoi? Quand j'étais jeune, je pouvais me battre pour toi. T'es plus la même en présence de gens. Je te préfère toute nue et dans l'indifférence. Je me demande, toi qu'éprouves-tu? Mais j'ai pas de réponse. Que puis-je faire à part des onces pour te dire ce que je ressens? Je m'y retrouve plus. Paris me manque terriblement. Pourtant, j'habite toujours la même adresse. Dans Paris, n'en reste. Où est passé Paris, ma rose? Paris sur scène, la bouclée. Ils sont partis en portant la clé. Les nonchalants du long des quais. Paris, ma rose. Paris, ma rose. Paris que j'aime. Paris que j'aime et qui n'est plus. J'aille en banlieue pour retrouver Paris. J'ai si peur que t'aies perdu ton âme et crié au gâchis. Je me méfie de la nostalgie, je fais que me plaindre comme un vrai parigot. Ici l'ouest est à droite et l'est est à gauche. Et tu connais mes sauces, on reste entre nous par numéro. Que des demeurés, j'ai pas changé de numéro. Je prends toujours le trop et l'air morose. Ça me traumatise de voir Paris intramuros se transformer. C'est comme si on déchirait des pages de ma vie. J'entends plus le son des sirènes, on veut que je dégage de ma ville. Où sont passés les gamins qui dansent serrurier? L'agitation du boulevard serrurier, j'en sais rien. C'est déroutant, j'ouvre les yeux, car je sais que tout n'est pas noir ou blanc. Y'a mille nuances entre les deux. D'ailleurs, où est passé Paris la crise, celle que j'aimais tant? Je trouve que t'as géchant et qu'il était temps que je te le dise. Ouais, il était temps que je te le dise. Paris la rouge, où t'es passé, Paname?
Featuring Jazzy Baz au chant. Jazzy Baz qui sera en concert, hein, lui aussi, le 5 avril, ce sera au Trianon à Paris. Et Manu Katché était très très bien entouré. À la basse, Jérôme Regard, au clavier, Jim Anderson, à la guitare, Patrick Manougian. Vous aviez besoin de voix, de chansons sur cet album.
Quand on fait de la musique, on a besoin de
Manu Katché, oui.
Surtout, très important. Enfin, la musique tout seul, c'est compliqué.
Ah, il y en a qui le font, hein. On en a reçu ici, ouais, qui font absolument tout, hein, jusqu'à la réalisation.
C'était vraiment génial.
C'était pas mal.
Moi, j'ai besoin d'un regard extérieur. Ouais. Donc, c'est pour cette raison que Jim Anderson est venu effectivement à la réalisation. Je voulais quelqu'un de très jeune, non pas pour d'être dans la tendance actuelle, mais simplement, moi, je viens de ce monde de la pop, rock, jazz, évidemment, et de la musique classique aussi. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui gère les samples, les boucles, ce qu'on appelle des boucles, et qui soit un petit peu dans cet univers d'électro. Et ce qui était intéressant, c'était de mélanger nos deux univers. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça a pris un peu de temps parce que c'était pas si simple. Il fallait qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Puis ensuite, je voulais aussi que les voix soient traitées d'une certaine manière. Alors, il y a des voix dont on ne va pas les jouer ici, les titres, malheureusement, parce que sinon, on va passer la journée.
Un concert.
Bon, nous, on ne demande pas mieux, simplement, ouais. On n'a pas le temps.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le problème. Voilà.
Donc, il y a des voix qui sont traitées un petit peu comme des instruments de musique, et je voulais des featuring. Donc, je ne voulais pas forcément des gens auxquels on s'attend, avec lesquels j'ai pu travailler, mais vraiment des jeunes personnes qui, avec une vision, une spontanéité différente, et notamment le titre qu'on va écouter. De Jazzy Baz, j'ai écouté beaucoup de rap, de hip-hop, ouais. De slam, et lui, il est vraiment dans son flow, comme ça s'appelle, vraiment un sens mélodique extrêmement poussé qui m'a vraiment touché et interpellé. Donc la collaboration s'est faite et j'en suis ravi.
Alors je vous présente Safi Nebou, notre autre invité, réalisateur. Vous vous connaissez, vous êtes déjà rencontré Safi Nebou, Manu Katché?
Je vous connais, mais je vous ai jamais rencontré.
Vous avez été un peu musicien, comme tout le monde, dans sa jeunesse, dans un garage, faire des groupes, non?
Pas vraiment, mais j'ai un rapport à la musique qui est très lié à un homme que vous devez connaître, qui est Ibrahim Maalouf, puisqu'il a fait les musiques de mes films, les précédents, dans les forêts de Sibérie. Et d'ailleurs, quand le morceau a commencé, la trompette...
Ouais, mais c'est pas lui.
Non. inévitablement, j'y ai pensé.
Ben oui, évidemment, mais je pense qu'on a un rapport à Miles, comme lui peut l'avoir également. Là, c'est un autre trompettiste français, Alex Tassel. Mais Ibrahim, on a travaillé ensemble et on a encore des projets en commun. Donc oui, c'est un garçon assez exceptionnel.
Je
musicalement, donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir avoir toute cette génération nouvelle qui envahit un petit peu les ondes et le reste.
Manu Katché, The Scope.
The Scope, je vais vous dire pourquoi. Alors ça veut dire plein de choses. Si vous faites une espèce de Wikipédia, vous allez avoir une réponse. Ah, en revanche, moi, c'était assez particulier. C'est-à-dire que quand on est en studio, j'ai fait beaucoup de studios, comme vous l'avez dit, avec pas mal d'étrangers. Et quand on fait du studio, généralement, ce qu'on print, ce qu'on met en première position, c'est la batterie. Donc après la prise de batterie, on va dans la cabine pour écouter la prise. Et là, on dit, généralement, le producteur dit, let's scope it.
Ah. Voilà. On étend.
C'est un peu le principe du microscope. On va vraiment extrêmement précisément
dans le détail.
Ouais. Voilà, dans le détail, infiniment petit, infiniment grand. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de se plonger dans le détail parce que cet album, finalement, est un petit peu tout ce que moi j'ai vécu depuis ma préadolescence à l'adolescence. Et ce qui m'a marqué avec avec quoi j'ai évolué finalement dans la musique, même si je faisais du jazz ou d'autres choses, d'autres genres musicaux, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué profondément et tourné autour de la batterie.
Comment vous la réglez, votre batterie, pour avoir ce son?
Alors, je l'accorde. Vous savez, moi, je viens de la musique classique, je viens du conservatoire.
Conservatoire, bien sûr.
Et j'étais principalement amené à jouer beaucoup de timbales. J'étais timbalier. Et les timbales sont, pour ceux qui ne connaissent pas, des espèces de gros appareils en cuivre avec des changements de notes possibles sur chaque timbale. Il y en a quatre avec une piccolo, donc une cinquième piccolo qu'on généralement n'accorde pas. Les quatre, on les accorde. Et moi, j'ai effectivement ce background-là. Donc, quand je me suis mis à la batterie parallèlement, j'avais besoin d'avoir une relation harmonique et mélodique sur mes tomes. Donc, alors, ne me demandez pas quelle note, je ne sais pas, c'est instinctif. J'ai toujours les mêmes notes par rapport à ma grosse caisse, mes tomes et ma caisse claire. Mais j'accorde toujours ma batterie.
Votre batterie. On va parler musique, bien sûr, avec vous. Cinéma avec vous, Sophie Nebout. Mercredi prochain, vous signez Celle que vous croyez, le portrait d'une femme de 50 ans. C'est Juliette Binoche qui joue, qui est excellente dans le film. Une femme invisible qui se crée un avatar plus jeune sur Facebook pour, au départ, épier son amant. Et puis, tout va déraper. Alors, bien sûr, on va rentrer dans le cinéma tout à l'heure. Mais j'ai pu lire que c'est quelque chose qui vous était arrivé aussi.
Oui, je ne dois pas être le seul, mais c'est vrai que oui, j'ai été hameçonné. On pourrait
harponné sur Facebook
par une jeune femme qui avec laquelle j'ai eu une relation au départ évidemment SMS et puis ensuite au téléphone et qui a duré quelques semaines petits mois même et jusqu'à ce que je découvre qu'elle n'était pas cette jeune femme en question
Elle était qui elle s'appelait Raymond elle était postière alors ça me rend pas elle était quoi, non, c'était quoi
au départ elle était assez jeune et elle vivait à Aix-en-Provence et au final elle était un peu moins jeune et elle vivait à Lille voilà en gros et c'était une femme qui avait des enfants, un mari et qui avec lequel je communiquais la nuit. Elle chuchotait parce qu'elle me faisait croire qu'elle avait un colocataire qui s'appelait Karim, un étudiant. Enfin bref, et elle m'a inventé toutes sortes de choses, mais il y avait quelque chose d'une dimension assez romanesque dans cette relation et je crois que j'avais envie d'y croire. Donc quand on a envie d'y croire, on y croit.
Et c'est arrivé à quelle période?
Alors étrangement, c'est ça qui est assez étonnant, au moment où j'étais en train de commencer à écrire...
On dirait du storytelling, c'est quand même dingue.
Non, je suis pas fier, hein. mais c'est pourtant la vérité. J'étais en train d'adapter le livre de Camille Laurence, et,
ouais, celui-là,
mais, voilà, celle que vous croyez. Et c'est vrai que, j'en ai parlé d'ailleurs au téléphone, je lui ai dit, mais c'est fou parce que tu pourrais être... Et c'était tellement énorme qu'elle me dit, mais elle a rigolé, moi aussi. Et on n'y a plus pensé, on a continué à communiquer jusqu'à ce que je découvre le poteau rose.
Manu Katché, ça vous est arrivé?
Non.
Non
Pas encore.
Pas encore.
Peut-être que oui, mais vous le savez pas. Hein.
C'est possible. Non, mais c'est incroyable l'histoire. Ouais.
Ce qui serait plus drôle, c'est que ce soit un garçon à Détroit, oui. Dans la cave de.
Pas plus drôle qu'une femme
de sa grand-mère.
Mais vous avez une connexion toujours aujourd'hui ou c'est.
Non. En réalité, on a découvert que cette femme avait harponné d'autres gens du cinéma, notamment. Je pense que ça lui donnait une forme de pouvoir. Et la police s'en est mêlée. Hein, c'était assez loin.
Oui.
Et moi, on m'a demandé de porter plainte. Seulement, je ne savais pas. Pourquoi j'allais porter plainte? Elle m'a rien demandé, j'ai joué le jeu, donc j'ai refusé de porter plainte.
Vous étiez amoureux?
J'étais pas amoureux, mais j'étais assez exalté. J'étais dans un... Bon, ça tombait dans un moment de ma vie où j'étais assez seul et pas tout à fait bien.
Ah bah c'est toujours à ce moment-là que ça arrive.
C'est à ce moment-là où on est le plus fragile, donc ouais. Forcément j'avais le terrain. Mais j'en garde quand même un bon souvenir. Et j'ai jamais voulu voir la photo de la vraie femme.
Ah oui, d'accord.
Non. Je reste avec cette image qu'elle m'a envoyée, et même si je sais qu'elle ne correspond pas du tout à la personne en question.
Le prénom qu'elle s'était donné?
Lila.
Ah, c'est pas mal. C'est très romanesque. Moi, je me serais méfié.
Moi, je suis une fleur bleue, moi.
Moi, je me serais fait piéger, évidemment.
Alors, on vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. Un son de pub pour vous, Manu Katché. Oui, vous vous seriez fait piéger, j'en suis sûr. Une raison pour ce son, en quoi il vous a marqué?
Il m'a marqué parce que c'était lié à l'image à l'époque, j'étais petit, très sexy, simplement. Très sexy, les jambes des femmes.
Les jambes de femmes.
Sublimissime, rien à dire. Donc évidemment, très sexy.
Très Truffaut, l'homme qui aimait les femmes.
C'est ça.
Oui, c'est ça, avec les jambes. Très bien. Un son de télé pour vous, Sophie Nebout. Mais Michael Fayot. Vous avez choisi ce son parce qu'il pouvait rappeler quelque chose de l'ordre de la batterie pour Manu Katché.
Vous voyez, j'ai plein d'actes manqués, mais c'est vrai que quand j'entends ce morceau, je me dis que vous auriez pu le prendre.
Oui.
Moi, c'est pour moi, c'est le dimanche. C'est les pommes de terre au lard que faisait ma maman souvent le dimanche, et à la télé une vieille Schneider en noir et blanc passait c'est la séquence du spectateur,
ouais.
Où ma première désir de cinéma, quoi, de voir des bouts de films. Je crois que j'ai rêvé à un moment donné de faire des films à partir de ce moment-là. Mais c'est très lié aussi à l'enfance, au moment réconfortant, ce dimanche après-midi, on est en famille. Je vous dis, c'est pommes de terre au lard, comme ça. Donc, quand vous m'avez demandé ça, c'est ce qui m'est revenu.
Le cinéma, donc, c'est plutôt du côté de votre mère?
Je dirais que c'est plutôt du côté de ma mère, peut-être, parce que même si elle était infirmière, elle jouait de la guitare, elle jouait dans des cafés, théâtres, donc elle avait un rapport déjà à l'interprétation. J'ai fait du théâtre très jeune, et donc ça, sans doute que oui, elle nous faisait des costumes, des maquillages, donc il y avait quelque chose qui était sans doute lié à ça, oui.
Parce que vous êtes réalisateur, mais aussi acteur, on y reviendra. Encore de la télé, mais ça c'est pour vous, Manu Katché.
Il y a quelque chose qui me paraît paradoxal avec vous, c'est que quand on parle de Gainsbourg, on dit « Oh oui, Gainsbourg, il est en avance de 10 ans sur son temps. » Et que d'autre part, je pense qu'en ce moment, vous êtes l'auteur-compositeur qui distribuait le plus de chansons à tous les jeunes chanteurs actuels.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, quoi ? Il y a un paradoxe ?
Ben oui, un paradoxe.
Paradoxe.
Alors, expliquez-moi.
Je vais expliquer. Je fais des exercices de style. Je m'adapte, et pour moi, j'ai des visions un peu plus avant-gardistes. Hein ?
En somme, vous ressemblez à certains faussaires de génie.
Elle avait une belle voix, hein. Denise Glaser.
Sublime, ouais. Voix.
Ouais. En 67.
Moi, j'adorais cette émission. En plus, l'attitude, quoi. Elle clopait sur le plateau. C'était en noir et blanc. C'était génial. C'était un moment de liberté intense. Je trouve qu'on a vraiment, ça n'existe plus du tout, ce genre d'attitude. Et moi, ça m'avait vraiment marqué étant jeune. Je me dis, finalement, c'est vachement chouette, la télévision, parce que j'ai une espèce de liberté. Tout est possible. Et c'est faux.
Ouais. Elle avait une vraie élégance dans les entretiens. Vraiment. Une sorte de nonchalance.
Ouais, elle allait chercher des choses en plus, du fait justement d'une espèce de laxisme comme ça. Peut-être joué, hein.
Oui.
Certainement. Mais je pense qu'on tout à coup on se confiait à une jeune femme comme elle était. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mais je vous dis aussi bien l'image que sa voix. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression. J'étais tout petit, je connaissais pas trop les choses de la vie. Je me disais, donc la télé représente forcément l'extérieur, donc ça doit être ça. Donc c'est tout est possible et c'était très excitant.
Nature et découverte, le son pour vous. Ça fine bout. On est où ?
Alors, est-ce que vous devinez ?
Ah non, il n'est pas. C'est pas une oreille d'or, on ne peut pas tout identifier.
Ouais. En fait, on est sur le lac Baïkal, en Sibérie, et ce que l'on entend, c'est la glace qui craque.
Wow.
Et quand j'ai été tourné dans les forêts de Sibérie, ça a été un choc, j'oublierai jamais le son de la glace, qui est vivante en réalité, qui passe son temps à faire des sons très organiques comme ça, et j'ai passé des heures à même allongé sur la glace, à entendre comme ça cette glace qui est en perpétuel mouvement, quoi. Et en même temps, là, ce qu'on a entendu, c'est plutôt extérieur, je la reconnais, c'est plutôt la glace extérieure, mais il y a aussi, quand vous mettez l'oreille sur le lac lui-même, vous entendez dans les profondeurs, les souffles, les battements. Et quand, dans les forêts de Sibérie, j'ai voulu réutiliser ce son, en fait,
Pour le film, voilà.
À un moment donné, Raphaël, le personnage, met l'oreille comme ça sur la glace, et j'ai utilisé des sons de battements de bébé, en fait, mêlés au battement du lac, et ça avait quelque chose d'assez magique.
C'est super beau, c'est super poétique. C'est marrant parce que moi, le son, oui, justement, j'aurais pas pu reconnaître parce que je suis jamais allé là-bas, mais au-delà de ça, moi, le son que j'adore le plus et que je vénère, c'est le silence.
Ah ben oui.
Et il y a des endroits, quand on est à la montagne, un petit peu perdu au milieu de nulle part, on a le silence, une certaine forme de silence avec juste un petit souffle léger de vent, et j'adore.
C'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai hésité avec le désert du Sahara. Moi, j'ai des origines sahraouites, mon père. Et je me suis dit, mais en radio, ça va être trop petit.
Oui,
comment faire entendre le silence en radio?
Mais c'est d'accord, c'est exceptionnel.
Exceptionnel, exceptionnel. Et très apaisant.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, physiquement, c'est organique,
c'est
ça.
Très apaisant, je suis d'accord.
Et pour autant, maintenant, on va vous demander de faire du bruit, Manu Katché. Okay. C'est le live.
Ok.
Rendez-vous.
Live.
Marion.
Deuxième titre live de Manu Katché. Jazzy Baz a été remplacé par une très jolie chanteuse blonde. C'est Julie Eriksen qui le remplace. Let Love Rule. Et c'est un extrait de The Scope, le dernier album de Manu Katché. C'est à vous. La voix de Julie Eriksen, Let Love Rule. Manu Katché sera en concert à Lille, Val Thorens, Bressuire, Vauvert, La Réunion. Voilà, toutes les dates sont retrouvées sur notre site et sur le sien. À la prise de son aujourd'hui, Xavier Lévesque et Stéphane Desmonts.
Peut-être une première question sur la façon dont vous avez écrit et composé cet album. J'ai pu lire que vous l'aviez composé avec des règles d'écrivain. Ça veut dire quoi, des règles d'écrivain pour être un musicien?
À mon avis, ça veut dire que c'est une routine. C'est-à-dire que venant du conservatoire, on travaille son instrument le matin jusqu'au soir, avec des heures bien précises. Quand j'étais au conservatoire, c'était genre entre 7h et 8h par jour. Et finalement, j'ai conservé cette manière de travailler. Ça va, je me mets au piano le matin. Vers 10h, je fais un petit break vers 13h pour manger un petit bout, finalement j'en sors, il est 23h. Alors il y a des jours où il se passe absolument rien. Forcément, j'écris en amont des choses en me promenant, en entendant des sons, en voyant des lumières, en voyant des films, en lisant des bouquins. Tout ça m'inspire, donc je peux noter plein de choses que je réécoute par la suite, mais j'ai besoin de cette routine régulière, chaque jour, au quotidien. Et au bout d'un moment, il y a une espèce d'esprit se met en marche, une espèce de gymnastique qui fonctionne. Et on commence à créer des choses. Alors là, je récupère ce que j'ai écrit. Ouais. Auparavant, il y a des choses que j'ai qui sont pas bien, des choses qui deviennent autre chose. Ça se développe. Et là, c'est parti. Donc c'est ça, cette espèce de routine pendant plusieurs jours, régulièrement. Et la même chose, parce que j'ai écrit un bouquin, je fais la même chose, exactement pareil.
Mais vous écrivez à partir, vous composez à partir du piano?
Du piano.
Jamais de la batterie.
Jamais. Et en fait, mon premier instrument, c'est le piano. Et c'est vrai que même si cet album est tourné plutôt vers la batterie au niveau du groove, etc., en tête, j'ai ce que je peux imaginer dans la pulsation. Mais j'ai pas besoin de l'écrire, je l'ai vraiment en tête. C'est presque moi, la batterie. En revanche, tous les gimmicks, toutes les mélodies, toute l'harmonie se fait uniquement au piano et je passe vraiment des heures à peaufiner au piano. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je passe encore un petit peu comme tout le monde sur un logiciel d'ordinateur où là, je positionne tout et on développe avec les instruments adéquats.
Marion? Vous parliez de règles d'écrivain pour l'écriture de ce disque. Moi, je me demandais quel écrivain vous lisiez. Est-ce qu'il y avait des écrivains en particulier pendant cette composition d'album?
Avant d'écrire, j'écoute plus de musique, je ne lis plus. Je suis un grand fan de Stefan Zweig. Là, récemment, j'ai fait Houellebecq, le dernier. J'adore Houellebecq. Hein, je suis assez fan. Mais je peux aussi, l'auteur qui travaillait beaucoup avec Stéphane Escher.
Philippe Jean,
merci. Ouais. Voilà, le dernier, pareil. Après Amélie Nothomb, je lis beaucoup de choses différentes, mais je reviens toujours, finalement, à Stefan Zweig, qui est une espèce de livre de chevet, en passant par les autres auteurs. Oui, Metin Harditi, j'aime beaucoup, j'ai découvert cet auteur formidable.
Séphine Bou, vous êtes quel lecteur? Parce qu'il y a pas mal d'adaptations depuis quelques temps.
Oui.
Sylvain Tesson, aujourd'hui c'est Camille Laurence, on va en parler tout à l'heure.
Oui, j'appelle ça lire utile, c'est pas très joli, mais...
C'est-à-dire, vous lisez un livre, pas pour l'adapter.
Au bout de 20 pages, je sens que je vais pas en faire un film, j'en ai marre à l'autre. C'est pas très... Désolé, mais c'est vrai.
C'est un peu ça? Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment ça, lire.
Oui. Il y a qu'en vacances, vraiment, quand je décide de me faire plaisir, de m'échapper un peu du cinéma, que je lis. Quand même, c'est tentant, parce que moi, j'ai envie d'y projeter des images, j'ai envie d'y voir, voilà. Mais je suis comme vous. Après, quand j'écris, c'est plus possible. J'ai même du mal à voir des films, et c'est aussi un rituel, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis du matin pour écrire, par exemple. Donc, il faut que je me lève très tôt, que je déjeune peu. Et je travaille, je fais des petites siestes comme ça de 15 minutes, je reprends, mais c'est un rituel et c'est comme un muscle après. Au bout d'un moment, les choses viennent, quoi.
Absolument.
Juste une question par rapport au fait que l'album est tourné autour de la batterie. On connaît Manu Katché, batteur, mais aussi on l'a connu chanteur à plusieurs reprises.
Ouais.
Oui,
non, j'aime beaucoup la voix. C'est un fait, j'adore la voix. Alors le problème, c'est que j'ai travaillé avec des gens qui chantaient extrêmement bien, donc tout à coup, j'essaye même pas d'imaginer que je puisse chanter, mais j'aime la voix, j'aime cet organe, je trouve que c'est magnifique. Et c'est vrai que souvent on me dit, ouais, quand t'étais batteur au début, qu'est-ce qui t'a influencé comme batteur? J'ai dit, finalement, pas beaucoup de batteurs, j'étais plutôt influencé par Marvin Gaye, Stevie Wonder, Donny Hathaway, plutôt des choses vocales. Et il est certain que sur cet album-là, alors j'ai utilisé un petit peu la mienne en mettant un petit peu de trafic, maintenant il y a plein de trucs possibles, donc, et je l'ai tourné en gimmick. Ça aurait pu être un gimmick d'un instrument de musique, c'est pas le cas, c'est la voix, mais surtout je voulais avoir des featuring parce que j'avais vraiment envie de représenter la voix avec des jeunes chanteurs plutôt que de ceux de ma génération pour essayer d'avancer, pour que eux aussi, avec leur spontanéité et leur univers, m'amènent d'autres choses. Mais j'aime la voix profondément.
Alors la voix de Manu Katché dans les années 80, bah, c'était ça.
J'aurais pu rester ainsi. Comme une ancienne amie. Et à ton temps, je ne sais quoi, je ne sais qui. Palace Hotel, mon coin des douze dans.
Palace Hotel, ça avait même été un tube à l'époque.
Ouais, alors, je sais pas, c'était un tube, mais enfin,
moi je m'en souviens en tout cas.
Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était super sympa, c'était positif, on avait bien rigolé, c'était très agréable, j'étais avec mes copains. C'est super sympa. Vous voyez, un truc qui est super cool, c'est que vous me rejouez ça aujourd'hui, j'ai pas écouté depuis des années. Ça fait super plaisir, quoi. Ouais. Très sympa. positif.
Et comment vous écoutez ce son des années 80 qui revient partout aujourd'hui avec la jeune génération?
Donc voilà, nous on l'a pas fait exprès, c'était les sons qu'on avait à disposition à l'époque, mais très bien, il y a plein de jeunes artistes qui l'utilisent très bien, avec plein de mélanges aussi, attention. Mais moi ça me va très bien parce que je sais le faire encore.
À propos de son, on parle du son catché, du fameux son catché. C'est quoi le fameux son catché?
Alors c'est compliqué le son catché parce que moi j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Alors comme on en parlait avec Laurent, j'accorde ma batterie. Oui. Ça c'est la première chose. Ma snare, ma caisse claire, extrêmement tendue mais au maximum avec un, là, je vais être un peu technique, un rim, ce qui entoure la pièce métallique qui entoure la caisse claire, qui est un rim extrêmement puissant, ce qui veut dire que ça ressort une harmonique, et la peau du dessous est aussi très tendue. Donc j'ai vraiment une harmonique très aiguë, qui peut parfois, par le pitch, par la tonalité, la note atteinte, peut gêner une certaine mélodie. Ça m'était arrivé à une Sting une fois, on était en studio, et le pitch de ma caisse claire était très haut, et m'a dit, Manu, sur la tonalité, ça me gêne un peu, c'est gênant quand je chante la mélodie. Donc là, je l'ai baissé, je l'ai tuné un petit peu en dessous. Mais ça, c'est très très important. Et ensuite, le son fait partie de ce que vous voyez ici. Malheureusement, auditeurs ne le voient pas, mais j'ai certaines cymbales et surtout deux petites splash qui sont un petit peu ma signature.
Toutes petites cymbales,
mais c'est minuscule, qui ne durent donc pas longtemps. Mais quand j'étais au conservatoire, vous savez, on avait un peu toutes sortes de cymbales, de percussions. Et c'est vrai que j'ai un petit peu bloqué là-dessus parce que ce sont des sons courts, un petit peu flashy comme ça. Et c'est des choses qui finalement caractérisent évidemment mon jeu, mais me donnent de la couleur. Et donc j'ai dû, au fur et à mesure, en développant ce que j'ai développé dans mon style de rythmique, je les ai vraiment intégrés. Et peut-être ça, ils sont catchés, je ne sais pas.
C'était des bons souvenirs, le conservatoire, parce que vous en parlez régulièrement, là.
Très bon. Bah ouais, parce que c'était le début, je savais pas où j'allais, je viens pas d'une famille de musiciens. Donc, j'étais le seul et j'ai tombé sur un prof qui était génial, qui m'a vraiment tout appris, qui m'a poussé à rentrer au conservatoire de Paris. J'ai fait de l'orchestre, j'ai remplacé Timbali à l'opéra, etc. Donc, j'ai vraiment une belle formation. J'aimais la musique classique, j'étais très fan de Satie. Donc, c'était une transmission, encore une fois. Il m'a passé sa passion de la musique classique et j'ai vraiment découvert plein de choses. Je connais pas grand chose, mais c'est quelque chose qui a traversé effectivement et mon âme et mon corps. Ensuite, quand j'ai approché la musique rock, je pense que cette culture-là était nécessaire à ce que j'ai développé justement stylistiquement.
Une dernière question, Manu Katché, par rapport à ce disque. J'ai pu lire que, avant même qu'il ne sorte, vous l'aviez présenté à Téhéran.
Ouais,
vous avez joué à Téhéran, ouais, dans quel cadre?
Un festival, et personne ne voulait y aller. C'était au moment où il y avait des petites manifestations assez chaudes là-bas, et personne ne voulait y aller. Alors les musiciens qui sont présents, pour vous en parler ici, Jérôme Regard à la basse et Jim Anderson au clavier.
Oui, je me retourne et je les regarde, ils opinent du chef.
Et Patrick Manoukian, ils ne voulaient pas venir. Et pourtant, c'est des gaillards. Ils m'ont dit, non Manu, t'es sûr, c'est un petit peu dangereux. Je lui dis, vous savez quoi? On va y aller parce qu'il y a une demande et je suis sûr qu'on va rencontrer des gens incroyables, ce qui était le cas.
Et ça a été comment?
C'était incroyable. Alors le public était scindé en deux.
Ah, il confirme derrière, il y a les pouces qui se lèvent.
Scindé en deux, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre.
Ah ouais, quand même.
Assez jeune, public très très jeune. C'est vrai que 70% de la population a 30 ans. C'est incroyable.
Mais encore scindé en deux, quoi. Même dans la jeune génération.
Ouais, mais debout en revanche, hein, quand à bouger et tout, c'était génialissime. Le problème maintenant, c'est que sur mon passeport, je peux pas aller aux States parce que.
Oui.
Voilà.
Mais oui, c'est foutu.
C'est ça.
Non, mais à ce point-là.
Oui, à ce point-là. C'est terrible. Hein.
Ça vous est arrivé, j'imagine, récemment, non? Vous avez dû aller au State et c'était impossible.
C'est
à cause
ça. Voilà, donc
il suffit de refaire un passeport. Quand même.
Non, il faut aller à l'ambassade et faire une demande et qu'il y ait une vraie investigation et ensuite on vous délivre un permis de comment dire, un ETA là pour touristes pour tant de temps, mais ils font vraiment une vraie investigation. Non, pendant 10 ans.
10 ans.
Ouais.
Ah oui, ça fait une boucle complètement.
C'est cher payé quand même.
Non, c'est chaud. Alors sous Obama, non. Maintenant sous Trump, oui. Il faut le savoir. Je me suis vraiment bien renseigné. C'était un petit peu difficile.
Je disais tout à l'heure, vous aviez joué quand même avec toute la planète pop rock ou presque, et je me demandais quelle avait été la personne la plus exigeante avec laquelle vous avez joué. Quelle a été la partie de batterie la plus compliquée?
Alors, ça c'est compliqué. Je m'attendais pas à cette question parce qu'ils sont tous très exigeants. Très pointu, très méticuleux. Alors les gens vont pas comprendre parce que la plupart du temps, quand j'ai fait toutes ces sessions avec ces gens-là, ça s'est très très bien passé. Et généralement, je me souviens, notamment quand je parlais de Sting, mais j'étais assez proche de Stuart Copeland, qui était le batteur de Police, et qui me disait quand on fait les séances, on fait 10 prises de batterie, jamais content. Moi, je faisais 2 prises avec Sting, ça passait très bien, il était ravi. Alors on va dire peut-être Peter Gabriel, parce que c'est un garçon.
Vous avez appris énormément ensemble sur cet album.
Beaucoup appris sur l'album So. Et lui veut tout essayer, c'est-à-dire les batteries organiques comme celle-ci ici en studio, une batterie africaine avec des tambours africains, une batterie électronique. Il veut essayer plein de directions. Donc très exigeant et ça prend beaucoup de temps parce qu'on remet à chaque fois. Alors j'aimais bien cette partie électronique, mais est-ce que tu pourrais l'intégrer dans ta partie acoustique? C'est assez compliqué. Lui, ouais, peut-être que c'est lui.
Quelques dates Marion
Quelques Guilbeault. Dates de concert, il y aura Lille, il y aura Val Thorens, il y aura Bressuire, il y aura Vauvert, La Réunion, Vénard. Et voilà, et je rappelle donc, l'album s'appelle The Scope et il est sorti il y a une quinzaine de jours.
Vous restez avec nous, Manu Katché. Tout de suite, on va parler Merci. De cinéma.
T'es marié, t'as des enfants, divorcé?
Tout ça à la fois.
Tiens, c'est gagnant.
France Inter.
Et tout ça, même pas 30 ans. Tu me caches quelque chose, Claire?
J'ai rien à cacher.
Le nouveau rendez-vous?
C'est fou.
Il y a quasiment.
Rien de notre rencontre. C'est fou.
Laurent Goumard.
C'est fou, c'est le terme. Hein. Au bord de la psychose, dans ce film, Celle que vous croyez, Safi Nebbou, c'est votre 6e long métrage depuis 2004. Le prochain est déjà annoncé. Sacré rythme quand même, ça marche bien, ça va?
Disons que oui, non mais il ne faut pas s'arrêter tant que ça marche. C'est trop risqué.
C'est vrai, ça pourrait donner des idées aux autres. Celle que vous croyez, c'est le portrait d'une femme, Claire, la cinquantaine, divorcée, deux enfants. C'est Juliette Binoche, excellente, qui joue cette prof d'université qui vient de vivre une rupture amoureuse avec Ludo, un type plus jeune qu'elle. Blessure narcissique, alors Claire trouve un stratagème pour épier ce Ludo. Elle se crée un faux profil Facebook, Clara Antounès, 24 ans, blonde, jeune et jolie. Et elle va contacter le colocataire de Ludo, Alex. Et là, une relation se noue, purement virtuelle, une liaison dangereuse qui va faire déraper Claire. Il va falloir consulter, mon annonce.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour des gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel.
Ça va, Claire? T'as des soucis?
Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo.
Pourquoi?
Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antounès.
Et ça ne vous faisait rien de savoir qu'Alex avait dans la tête une autre femme?
Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans.
Je crois qu'il nous arrive quelque chose.
Toi, t'as rencontré quelqu'un.
Je remonte tout doucement sur ton sein.
Qu'est-ce que vous cherchiez? Il veut une autre vie?
Non, pas une autre vie, la mienne. Enfin.
Je peux pas continuer à vous aider si vous ne dites pas la vérité.
Et la vérité est toujours plus étrange, on va y revenir sans rien spoiler. Je vois que Safi Nebbou est assez inquiet. Au départ, c'est un roman formidable aussi de Camille Laurence. Vous aviez des images de cinéma quand vous l'avez lu utilement?
Oui, j'avais des images de cinéma. J'avais beaucoup de Hitchcock, j'avais du Vertigo, j'avais aussi des romans du 18e, j'avais Les Liaisons Dangereuses évidemment, j'avais Les Fosses Suivantes de Marivaux.
Pourquoi Hitchcock?
Bah, Hitchcock, parce que déjà Vertigo, c'est ça.
C'est une femme c'est qu'on aime femme. À travers une autre. Voilà. Donc une fausse femme. Ouais. Voilà. C'est ça.
C'est un portrait, mais on est passé aux réseaux sociaux. Et aussi dans la construction. Parce qu'il y avait déjà chez Camille Laurence une construction très hitchcockienne, assez thriller, très construit en poupée russe, que je trouvais extrêmement amusante parce que perpétuellement, je sais pas si ça se dit, mais enfin, en permanence, plutôt. En permanence, on passe de la vérité au mensonge, au virtuel, et d'une certaine manière, le spectateur est promené, et j'ai pris un plaisir en lecture, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec le cinéma, quoi.
Alors, ce qui est bluffant au départ, c'est la façon que vous avez de filmer cette femme qui ne communique au départ, avec ce fameux Alex, que derrière des écrans, les téléphones, les ordinateurs, et Binoche est absolument génial parce que ce sont des scènes difficiles. On n'est face à personne, on tape sur un écran, on lit des mails et idem pour François Civil qui joue Alex, on ne le voit pas et on entend sa voix. Comment vous avez mis ça en scène pendant le tournage? Est-ce que par exemple pendant le tournage vous avez fait en sorte qu'ils ne se rencontrent pas au départ?
Exactement. Ah ouais. Exactement. En fait, ils ne se sont même pas rencontrés avant. C'est-à-dire, quand moi j'ai proposé à Juliette et puis à François, on a décidé qu'ils ne se rencontreraient pas.
Oui, ils se sont googlisés. Enfin, j'imagine
alors,
que
l'on connaît. Peut-être sans que je sois au courant, mais en tout cas, on a mis en place un vrai numéro de téléphone. On faisait venir François Civil, qu'on planquait dans une pièce, en fonction, dans une voiture, etc. Je filmais Juliette, qui recevait l'appel. Il était au bout du fil. Et moi, je passais de l'un à l'autre en permanence pendant les scènes. Et une fois qu'il avait terminé, il repartait. Et ça, pendant toute la période où, dans le film, ils ne se rencontrent pas.
Ah ouais. Un mot sur Binoche. Je sais qu'elle travaille avec des coachs et j'ai pu lire que ça avait pu, au départ, vous provoquer une certaine défiance ou méfiance.
Défiance, non, mais...
Ça veut dire quoi qu'elle travaille avec des coachs?
Bah, les Américains font beaucoup ça. Les Français, beaucoup moins. Donc, nous, on est moins habitués. Mais ce que je trouve très, très intéressant, hein, moi, ça veut dire qu'elle se prépare. Elle fait des improvisations autour du sujet. Là, en l'occurrence, par exemple, la voix de Clara, cette qu'elle imagine, elle l'a cherchée en impro, elle l'a travaillée.
Avec ses
coachs. Elle se prépare, oui, comme moi, je prépare mes plans, comme moi, je prépare mon découpage. Exactement.
Comme c'est vrai qu'en France, très peu d'acteurs français.
Non, parce qu'on est notre cinéma, c'est des références de la nouvelle vague où finalement, on est dans quelque chose de très naturaliste, où la spontanéité est importante, où il faut pas trop fabriquer. Donc c'est notre histoire, ça. Aux États-Unis, le cinéma américain, c'est un cinéma qui se fabrique, et c'est vrai que dans ce film, je suis peut-être plus près d'un cinéma anglo-saxon que d'un cinéma français.
Pour autant, il y a quelques références à Claude Sauté.
Oui, alors c'est marrant parce que, notamment, on parlait de d'Ibrahim Maalouf, mais j'avais quelques références. C'est compliqué pour un compositeur, hein, quand vous commencez à lui mettre des références, parce que ça peut l'enfermer, ce qui n'est pas du tout le cas d'Ibrahim. Mais c'est vrai que je lui parlais de Doloru, je lui parlais de compositeurs comme ça, et j'avais envie, oui, qu'il y ait à la fois dans les plans, dans certains plans, et dans la musique, une référence à ce cinéma-là, oui.
Le cinéma fait appel à vous.
Oui,
Manu Katché.
Plusieurs fois, oui.
Plusieurs fois, oui. Je sais, il y a déjà eu une musique de film.
Oui, quelques-unes. Ouais.
C'est pas marché, même.
Oui. C'est un exercice difficile, hein. Je vous écoutais. C'est passionnant, mais c'est difficile parce qu'effectivement, vous avez des codes que vous pouvez pas transmettre avec certains de nos codes à nos musiciens. Donc, effectivement, on peut aller sur les mauvaises directions. C'est pas simple de mettre des images en musique et inversement. Donc, c'est compliqué. Moi, c'est pas ma spécialité, mais j'adore ça également parce que c'est un très bel exercice.
Et être acteur, on vous l'a proposé?
Alors, on m'a jamais proposé. Ça, vraiment, ça me, je suis super miné parce que j'adorerais.
Ah, c'est vrai.
Vraiment un truc qui me fait kiffer, ouais, plus que la musique de film. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment parce que j'ai essayé, alors j'ai joué mon propre rôle avec une jeune fille que je connaissais depuis tout bébé et qui a fait un film qui est passé sur Netflix. C'est très drôle, c'est mon propre rôle. Je me suis super éclaté et j'ai adoré la relation à l'autre, à savoir que c'est comme avec mon bassiste ou avec mon guitariste. Tout à coup, il y a un plaisir de jouer dans le regard. Et alors moi, évidemment, j'avais super bien appris mon texte. C'était la première fois que je le faisais. Et y a un échange immédiat comme basse-batterie quand ça groove. C'était super agréable. Moi, j'aimerais beaucoup. Mais bon, voilà.
Vous ne vous filmez pas alors que vous êtes acteur, Safine Bou. Vous n'intervenez pas dans ce film. Vous auriez pu avoir le rôle du divorcé, par exemple.
Ouais, mais c'est un exercice compliqué. Moi, j'ai été un acteur qui était tellement angoissé, j'avais tellement peur. Le trac me prenait tellement que j'ai plus du tout envie de jouer, moi. Et puis, quand il y a des gens qui le font aussi bien que Nicole Garcia ou que Juliette Binoche.
Nicole Garcia qui joue le rôle de la psy, qui est excellente, ouais. Elle aussi. Moi, j'adore les...
C'est vrai que je sais que j'atteindrai jamais ça, par exemple.
Ça vous fait souffrir d'être acteur?
Oui. Oui, moi, je tournais beaucoup à l'époque au théâtre et la journée, je sais pas si vous êtes traqueur, mais toute la journée, j'étais l'ombre de moi-même. Juste avant d'entrer sur scène, il m'arrivait même de vomir. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même cher payé. Donc, la vie commençait après la représentation le soir quand on allait dîner. C'est un peu court.
Oui. Alors, Claire est une femme de 50 ans, une femme littéralement invisible, puisqu'elle est planqué derrière son écran. C'est aussi ça que raconte ce film, avoir 50 ans et être invisible. Et on pense tous, en tout cas on y a pensé moi quand j'ai regardé le film, à la déclaration de Yann Moix, elles sont invisibles. Vous
oui,
aussi, Safine Bou, c'est quand même dingue. Bah, le même terme. Hein.
Oui, non, le terme invisible, je dois dire qu'il nous fait une publicité malgré lui, mais c'est vrai que ces femmes, notamment au niveau du désir, quoi, et puis du jour au lendemain, parce qu'il y a vraiment cette frontière entre 49 et 50. À 50, elles sont plus bonnes à la consommation. C'est ce que dit Camille Laurence dans son roman, c'est terrible. Et cette femme a la société nous renvoie à ces femmes-là une estime d'elle qui est pas très belle, quoi. Et en l'occurrence, cette femme humiliée, cette femme mal aimée, a le sentiment que l'amour ne peut plus passer à travers elle et elle ne passera qu'à travers quelqu'un d'autre. En l'occurrence, une femme plus jeune, plus désirable. Et on est dans un monde tellement de l'image où finalement chacun scénarise sa vie par l'Instagram, se photographie en permanence, etc. Il y a une forme de jeunisme, quoi. Les jeunes ont pris le pouvoir d'une certaine manière et nous on est là un peu quand on n'a pas que vécu ça à courir après une image, on se met sur les sites, on essaie d'eux, mais il y a quelque chose qui me semble être à la fois passionnant et en même temps très sociétal.
Vous continuez sur les sites? Ça finit?
Alors je vais vous dire franchement oui, mais au moins jusqu'au 27 février, c'est-à-dire que là je balance toutes les infos possibles sur mon film. Je me suis mis sur Instagram parce que Juliette elle est à fond sur Instagram.
Ah oui, c'est vrai,
Juliette. C'est elle qui m'a appris. C'était donc j'ai pas encore beaucoup d'amis, mais en tout cas oui, parce que là d'un coup c'est un tel moyen. Aujourd'hui le film par exemple, c'est la première fois que ça m'arrive. On peut pas envisager sortir un film aujourd'hui sans avoir une communication liée au web. Et il y a des agences qui se sont créées. Et en réalité, c'est un moyen de communiquer tellement grand, tellement facile et beaucoup moins cher que la télé ou d'autres choses à une époque, qu'aujourd'hui, on est obligé de faire avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne maîtrise pas, c'est pour ça que le film est vertigineux, on ne maîtrise pas, on ne mesure pas encore ce que les gens, notamment les jeunes qui n'ont avoir connu que ça, ils sont nés avec ça, les films qu'ils feront demain. C'est-à-dire, moi j'ai eu un téléphone tard, j'ai connu le Minitel, vous voyez, c'est ça a été tellement vite. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pu faire un film comme ça. Voilà, j'aurais pu adapter Les Liaisons Dangereuses.
Oui, tout à fait. Qui était exactement la même histoire.
C'est Madame de Merteuil, oui.
Puisque, de toute façon, il y a même des citations à l'intérieur, puisque Juliette Binoche est prof de lettres. Vous, comment vous êtes arrivé à la réalisation? Vous aviez fait une école?
Non, j'ai c'est le théâtre, hein, vraiment moi, hein, le théâtre comme acteur, et puis ensuite la Citana de mise en scène. J'ai travaillé avec Jacques Échantillon un peu à la Comédie Française, et c'est par la Citana à la mise en scène et par le court-métrage. C'est vrai que il y a un moment donné, le cinéma, il faut fabriquer, il faut faire. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive, il fallait que je fasse quelque chose. Et voilà, j'ai commencé à écrire. J'ai adapté d'ailleurs des nouvelles d'André Chédide, la grand-mère de M.
Ouais.
Voilà, qui est deux que j'ai mis en scène et qui ont eu un assez beau succès et qui m'ont permis de passer au long-métrage.
C'est tout ce que l'on peut voir dans Celle que vous croyez. Ça sortira en salle mercredi prochain. Merci Safine Bou. Vous restez avec nous. C'est la dernière partie de la première partie du Énervé. C'est toujours un peu compliqué. Mais ça va être simple. C'est les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
Rendez-vous. Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, n'est pas difficile. Ici, on aime tous les genres. Country, western.
Vous êtes des policiers?
Non, madame. Des musiciens.
On va parler de la vie éternelle. Ça sera dans la deuxième heure du nouveau rendez-vous. Mais pour l'instant, les nouveautés à venir. Dès demain
ou après-demain. On attaque tout de suite avec du très très lourd. 4 milliards de streams. 4 milliards de streams, ça vous pose une voix. Et cette voix, c'est celle d'une jeune Californienne, aussi douée pour affoler les compteurs de la pop que ceux de la mode. Elle s'appelle Billie Eilish, elle vient d'avoir 18 ans et elle chante du soir au matin depuis l'âge de 8 ans. D'abord dans la chorale des enfants de Los Angeles, et puis avec son grand frère qui décide de produire ses premières chansons, qui ont tout de suite trouvé leur place sur les réseaux sociaux, bien sûr. Les plateformes musicales, c'est leur meilleur score du moment. C'est une artiste Apple Music. Et les bandes originales de séries télé. Alors ses clips sont aussi stylés que son look, entre street et grunge. Et sa musique, me direz-vous, eh bien, voilà, c'est là que ça devient intéressant, parce que Billie Eilish ne fait rien pour être particulièrement séduisante. C'est pas Miley Cyrus, c'est pas Britney Spears, c'est pas Angèle. Sa pop, à elle, elle est ténébreuse, quasi gothique, avec des échos de trap, d'ambiante. C'est une drôle de fille, aux cheveux et à la voix d'argent. Et ses chansons sont des histoires parfois macabres, tourmentées. Je la cite. « Moi, j'adore être jugée, peu importe que ce soit en bien ou en mal. Je me dis, si tu penses à moi, je suis dans ton esprit, elle est dans le nôtre. »
Why don't you run for me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud.
Elle s'appelle Billie Eilish, Bury a Friend. Ça vous parle, ce genre de pulsation, Manu Katché?
Ah oui, totalement, j'aime beaucoup.
Ça fait une boue.
Ah oui, la voix.
Ah, la voix est super. Hein.
Elle a une voix
18 ans,
elle a une voix extraordinaire. Je vous invite à aller regarder sa prestation chez Quotidien. C'est absolument dingue. Elle a joué à La Cigale il y a 3 jours, c'était archi complet. Vraiment, La Cigale était en transe. Son premier album sortira le 15 mars chez Polydor. Alors elle comptabilise pas autant de clics que sa consœur américaine, mais ça commence à chauffer sévère pour Kofi, 18 ans elle aussi, espoir du reggae jamaïcain. Et que le
Manu Katché est dévasté. Les jeunes ont pris le pouvoir.
Elle est dehors, bim. Alors que le futur du dancehall soit personnifié par une jeune fille aussi élastique qu'un kangourou avec des dreadlocks blondes tressés sur la tête, c'est déjà un exploit quand on sait combien ce genre musical peut être un réservoir à macho. Mais ça, Kofi, aka Michaela Simpson, personne s'en fiche comme de son premier toast. Elle a été élevée à Spanish Town par une mère célibataire qui l'emmène à l'église. Là, elle découvre la musique. À 12 ans, elle saisit une guitare. Et 5 ans plus tard, elle écrit une chanson hommage à Usain Bolt qui la relaie sur ses propres réseaux sociaux. Bim, ça s'enflamme. Et depuis, Kofi trace sa voix entre les sons classiques de la Jamaïque et ceux plus digitaux de son époque. Et elle affirme avec toute sa candeur et foi de 18 ans, le but de ma musique est de divertir les gens tout en mettant en lumière les problèmes de la société afin d'essayer de trouver une solution. Je veux vraiment rendre le monde meilleur. Kofi, Toast, les bonnes vibrations de Kofi. Son premier EP, Rapture, sortira le 15 mars aussi. Elle sera en concert le 30 juin à la Maroquinerie à Paris.
C'est un carton bleu ou un carton rouge, Manu Katché?
Je le sentais venir.
Et voilà, il fallait qu'à un moment donné, ça apparaisse.
Oui, bien sûr, bleu. Et c'est vraiment, on est vraiment dans l'héritage de Rihanna. Hein.
Ouais.
Work, 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 quand on écoute le titre, on est vraiment dans ce truc greasy, Ivy, un peu bien.
Et de votre côté,
moi, je préférais la profondeur de la précédente en termes de voix. Là, il y a un truc qui, je trouve, moins, qui me parle moins.
Carton rouge.
Alors voilà, pour faire le poids face à ces deux phénomènes musicaux féminins, ben, il fallait un homme hein, capable de faire le poids. Et ben, j'ai pas trouvé le nouveau Justin Bieber, j'ai pas trouvé le prochain mot à la squale, j'ai trouvé Gontard, chanteur de variété contrarié. Il porte en général un masque de lapin et il compose comme d'autres pratique le collage avec des samples et du talk over permanent. Alors vous imaginez un grand mix entre Daniel Darc, Gilles Deleuze, Manset, le rap de Détroit, Welbeck, et vous aurez une petite idée de ce qui agite notre Dromois. Les chansons de Gontard sonnent pourtant comme des appels à la résistance, car si la musique ne sauvera pas le monde, elle peut le rendre un peu plus fréquentable. Alors son prochain projet à Gontard, c'est un concept album qui nous projette dans une petite ville en 2029, Gontard sur Misère, 33 000 habitants, maire ultra-droite. C'est une chronique micro-futuriste sur fond de crise économique et amoureuse, avec pop galvanisé et toujours cet humour grinçant.
Il a quel âge ?
Premier témoignage.
Quel âge il a, Gontard ?
Allez, la petite trentaine.
Mais il chante avec son masque de lapin ? Non,
mais bien sûr.
Ah oui,
mais
d'accord.
Oui, bien sûr, il chante avec le masque de lapin, on l'invitera. Premier témoignage.
Avant de se lancer dans un concept album autour d'une ville, vaut mieux rien laisser au hasard. Sinon, on se fourvoie dans du gadget. Alors c'est sûr, t'en vendras des galettes. Mais c'est creux, c'est le néant. Avec une minutie documentaire, tu rentres dans ta ville. Ici, Gontard sur Misère, par la sociologie, par la psychologie, avec comme point d'appui la presse locale. Ici, le Dauphiné libéré, quintessence du rien, Poujado crypto-libéral. Pour remplir ma mission, j'individualiserai la ville, avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques et ses notables. Il faudra planter le décor, bien sentir l'anatomie de la ville, battre sous nos doigts, photographier les crises, les enthousiasmes, puis les écroulements. Et les derniers hivers. Gontard sur Misère, ville de 33 000 habitants. Tous les ans, il y a une foire à la con qui bloque la ville pendant une semaine. Jean-Pierre Descombes, Léopold Nord et vous. Les trois ducs de la télé-réalité étalent, s'enchaînent les podiums. À la base, cette foire a été créée en 1930, en pleine crise économique, pour relancer l'industrie de la chaussure qui se cassait la gueule une première fois. Puis, il y a eu un jour un sauveur libéral. Plus loin, là-bas, ils avaient la Farge et la cimenterie. Ici, c'est Charles Mordant, avec ses pompes de luxe, il s'est bien fait du blé. Il a profité de la création de la cité HLM pour loger tout le monde. Puis il a commencé à licencier. Depuis, dans ma ville, c'est chômage de masse, attrape couillon, gare TGV, la grande aglo, Narco Avenue, 2084. Le capitalisme éco-responsable, les prêts toxiques, moins de structures publiques pour un désendettement efficace, selon les affameurs de la Cour des comptes. Ça tente des partenariats avec des villes chinoises de 3 millions d'habitants pour faire rentrer des devises. C'est complètement con ce parrainage. Y'a pas un Pékin en ville. Y'a pas un Pékin, pas un Pékin en ville. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, faut
pas lire la fiche Wikipédia de Gontard sur Misère pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, il faut planter le décor. Je veux planter le décor. Il faut planter le décor, mes amis, plantons le décor. Plantons tous les décors, une chanson, planter le décor. Et pas lire la fiche Wikipédia, planter le décor. Ça rend fou, planter le décor. Compte les maisons, il faut pas lire la fiche Wikipédia de Gontard sur Misère. Faut planter les décors, ça rend fou, ça rend con.
Dans ma ville, un extrait de 2029, le nouvel album de Gontard au masque de lapin. Il sortira le 26 avril prochain, une programmation urbaine de Marion Guilbeault. Et bien voilà, le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal. Merci Manu Katché, merci Safi Nebout. On va se retrouver toutes et tous avec ça.
Mr. Nobody sera bientôt le dernier homme sur Terre à mourir de mort naturelle.
Espérance de vie maximum, demain tous immortels, c'est le sujet du jour. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.